France Maghreb 2, France Maghreb 2.
La radio du vivre et du faire ensemble.
Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro.
Le Grand Forum.
Rachida Kabouri, soyez la bienvenue, chère Rachida, sur France Maghreb 2. Vous êtes un petit peu au cœur de la polémique, j'ai envie de dire, malgré vous. Ce qui nous intéresse sur France Maghreb 2 ici, c'est les faits, rien que les faits. On parle de vous, effectivement, depuis quelques jours. Vous avez tenu un bureau de vote, vous étiez présidente au départ, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé. Mais d'abord et avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter, à savoir un petit peu votre parcours qui est, ma foi, très intéressant.
Merci de m'avoir invité et de me donner la parole parce qu'actuellement, c'est vrai, c'est le feu nous concernant. Je ne crois pas au hasard, mais je pense que le débat est relancé sur cette question du voile. Alors moi, j'aime pas ce mot du tout parce que je...
Foulard, on aime bien ici.
Voilà, je porte un foulard. Et donc, tout d'abord... je pense qu'on ne respecte pas les gens concernés. Et aujourd'hui, on parle derrière notre dos, sans notre présence, sans nous donner la parole. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir donné cette parole aujourd'hui pour me présenter déjà qui je suis, qui se cache derrière ce foulard, ce bout de tissu sur ma tête qui attise les haines, le racisme et nous renvoie dans un monde que... Bon, on régresse aujourd'hui. Donc, alors moi, c'est, je suis issue de la troisième génération, donc française, jusqu'au bout des ongles. Donc j'ai un parcours assez particulier. Donc je viens du monde associatif, tout d'abord, où je préside une association, les 2L. Alors les 2L, pourquoi ? C'est l'association Lumière et Liberté.
D'accord.
Pourquoi ? Nous, on estime que la lumière de la connaissance forge nos libertés, tandis que l'ignorance est mère de toutes les injustices. On aime philosopher, on aime avancer sur un terrain, le terrain du savoir. Donc, qu'est-ce que fait cette association ? Elle a monté un réseau interassociatif, le collectif interassociatif du Val-de-Marne, qui regroupe plusieurs associations et partenaires, des professionnels de la santé, du droit. On œuvre tous. Et on a décidé d'innover dans cette société malade qui ne sait plus vivre ensemble, où le lien social a complètement été brisé, rompu. Et donc on a uni nos forces, on a mutualisé nos compétences, notre savoir-faire. Beaucoup de bénévoles se sont investis autour de nous et surtout dans les quartiers QPV. Alors quartiers QPV, c'est les quartiers politiques de la ville, dits anciens quartiers prioritaires, bref, les quartiers difficiles.
Ouais.
Donc du coup, nous, on œuvre à l'échelle du territoire sur le 94. Donc on fait de la lutte contre les discriminations, les violences faites aux femmes. Nous faisons la promotion d'égalité femmes-hommes. On s'investit aussi sur l'aide à l'insertion professionnelle et à la création d'entreprises auprès des jeunes. On travaille avec des professionnels du droit. On travaille avec des entreprises pour aider les jeunes à trouver un emploi et surtout baliser un parcours de formation qui leur permet de décrocher une qualification et de sortir un peu de leur ghetto. Nous abordons aussi l'accès au droit et à la santé, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, on a mis la charrue avant les bœufs avec la dématérialisation des services publics. Beaucoup de gens n'ont pas accès à Internet, n'ont pas accès au numérique. Donc c'est une véritable fracture, c'est une honte même, je dirais. Il y a aussi l'accès à la santé, bien sûr. On travaille sur les questions de la parentalité, les questions sur l'accompagnement des familles qui ont des enfants autistes. Et pour finir, on a même mis en place sur la problématique du logement, qui est un autre scandale en France, on a mis en place la plateforme du logement d'urgence solidaire, qui est une alternative au 115. Donc voilà, on fait beaucoup de choses sur le terrain et je pense que les politiques d'aujourd'hui sont complètement déconnectées du terrain. C'est pour ça qu'on entend des commentaires ahurissants et je pense que mon foulard, ça les arrange parce qu'il cache surtout les problématiques de terrain que je viens d'évoquer.
Alors, Rachida, on va reprendre un peu les faits. Vous avez été appelée par le maire de Vitry. Vous êtes élue dans cette ville, d'ailleurs. pour tenir un bureau de vote en tant que présidente au départ, parce qu'on manquait de personnel, on manquait de gens pour tenir les bureaux. Ce que vous avez accepté, ce que vous m'aviez dit, vous avez accepté d'être présidente, sauf que la préfète du Val-de-Marne, visiblement, a décidé que c'était pas possible parce que vous portez un foulard de présider un bureau de vote. Du coup, on vous a mis assesseur. Et il y a eu des plaintes, visiblement, si j'ai bien compris l'histoire, concernant le fait qu'on puisse avoir une assesseur. On dit bien d'ailleurs une assesseur, oui. Hein, c'est ça, qui puisse porter le foulard dans un bureau de vote. Ce qui a conduit à amener à l'Assemblée nationale des députés du MoDem et des LR à demander à ce que l'on interdise, ça ne passera pas, hein, mais à ce qu'on interdise les femmes portant le foulard de pouvoir tenir un bureau de vote. Quelle a été votre première action quand vous êtes apparue au cœur de cette polémique, ma chère Rachida?
Alors tout d'abord, vous sautez aussi une étape dans
ah bah oui, non mais...
Donc je vais vous expliquer tout simplement. Aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de villes rencontrent des difficultés à ouvrir des bureaux de vote parce qu'elles manquent de bras. Et ce devoir citoyen que chaque Français devrait au moins faire une fois dans sa vie, le problème, c'est que le maire de Vitry a dû même réquisitionner des personnes pour pouvoir ouvrir l'ensemble des bureaux. Et moi, il m'a demandé tout simplement de venir les aider et de tenir un bureau. Donc je suis tout à fait compétente pour tenir un bureau en tant que présidente. Je dirige plusieurs structures bénévolement où je suis présidente. Donc c'est pas difficile de tenir un bureau. Seulement, je ne connaissais pas la loi. Et d'après le maire, avait mal interprété la loi. Donc moi, j'y suis allée en ignorant la loi de neutralité pour le président. Donc j'y suis allée gentiment avec du thé à la menthe et des gâteaux pour...
Vous cherchez les ennuis, vous aussi, Rachida.
C'est terrible.
Bah oui.
C'était pour motiver les troupes, parce qu'il faut tenir de 8h du matin jusqu'à 23h.
23h, oui, parce qu'après, il y a le dépouillement, absolument.
Le dépouillement et tout ça, donc il faut le faire. Et là, tout se passait à merveille. On a eu même la commission de contrôle des bureaux de vote. Ils sont passés, ils nous ont salués. Donc, normalement, ils sont censés connaître la loi mieux que moi. Et s'ils avaient constaté que j'étais en infraction, ils auraient dû me le dire, parce que dans ce cas-là, je ne me serais pas exposée à ce que j'ai subi, l'agression raciste et islamophobe d'une vieille dame qui...
Racontez-nous, Rachida, comment ça s'est passé ?
Elle est arrivée, c'était pas une votante à mon bureau, et donc elle est venue exprès pour m'insulter, intégriste, islamiste... Donc je vous cache pas, j'ai été choquée. L'ensemble des membres du bureau ont été choqués. Ils m'ont soutenue. C'est violent parce que vous venez servir votre pays et faire un devoir citoyen. Et en retour, vous êtes insultée. Et je peux vous dire qu'on vous renvoie un peu on fait de vous une étrangère. Et donc apparemment, beaucoup de personnes... ont téléphoné à la préfète, délation. J'aime pas la manière, c'était trop facile. Donc le maire me rappelle pour me dire, Rachida, écoute, la préfète, elle veut que tu passes assesseur et que tu changes ta place avec l'assesseur.
Est-ce que vous avez accepté, Rachida ?
Bien sûr que j'accepte. On est là pour ouvrir un bureau et faciliter les choses. On aimerait que les gens viennent voter. Moi, à mon bureau, j'ai eu 80% d'abstention. C'est une honte à notre époque. Ouais. C'est une honte. Ouais. Donc, c'est trop facile pour les députés de blablater à l'Assemblée nationale. Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent donner un coup de main et ouvrir les bureaux. Mais je pense qu'ils n'aiment pas. Ils parlent d'un sujet pour esquiver le vrai sujet, c'est-à-dire le désamour des Français et Françaises de la politique et des politiciens.
Alors, Rachida, vous êtes également partie du parti Europe Écologie Les Verts ?
Oui, tout à fait.
D'accord. C'est important parce que j'ai vu dans la presse aussi que vous auriez démissionné de ce parti. Non, il n'en est rien.
Non, il n'en est rien. J'ai quelques difficultés avec quelques élus de mon parti, mais c'est rien. Mais le parti est...
vous a soutenu d'ailleurs ? Est-ce que le parti vous a soutenu ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Ils
m'ont beaucoup soutenu. Ouais. Ils me connaissent parfaitement. Je suis quelqu'un d'engagé sur le terrain et...
Ouais. Alors, Philippe Poriaki, qui également fait partie du même parti que vous et qui est d'ailleurs conseiller régional tout fraîchement là. Philippe, quand tu vois, quand t'entends Rachida nous raconter cette histoire absolument incroyable, c'est de la délation, hein, évidemment. Pourquoi ? Bah parce qu'elle porte ce foulard. On en est là aujourd'hui en 2021 en France, Philippe.
Écoute, moi j'ai un plan de carrière. Normalement, je devrais être député voire un ministre, donc j'aimerais ne pas. Voilà, je collabore moi. J'ai peur. Donc je ne veux rien dire là-dessus. Non, je déconne évidemment. On est dans un pays islamophobe, donc bah, va falloir composer avec. Enfin, je suis pas sûr que le pays soit islamophobe. Il y a une minorité d'islamophobes, de racistes qui ont pris le contrôle des réseaux sociaux et qui imposent leur vision, qui nous imposent le débat.
Ouais.
Et donc nous, comme tout à chacun, bah, on est pris par la polémique, donc on commente la polémique et donc on l'alimente, donc on leur donne du grain à moudre, donc on leur donne raison et donc ils continuent. Voilà, c'est un cercle sans fin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi je... Alors, rappelle-toi, il y a encore quelques temps, les sénateurs avaient voté contre l'interdiction des femmes qui portaient un voile de faire l'accompagnement scolaire. Les profs, ils ont à un moment donné dit, attendez, si elles ne sont pas là, il n'y a plus de sortie.
C'est ça.
On fait comment? La réalité, elle est là. Tu sais, moi, j'ai fait mon randonnée il y a quelques jours et j'ai eu quelques critiques, pas autant que ça d'ailleurs. J'ai eu beaucoup de soutien d'ailleurs. Alors, j'étais pas au top de ma forme parce que j'étais très malade entre lundi et mardi. Et ça se voit pas, mais je peux vous assurer que quand l'antenne a été rendue, j'avais plus de pêche, j'avais plus de jus. D'ailleurs, c'était très marrant parce qu'à la sortie, le type de la fachosphère et l'AREM, ils sont en train de parler ensemble parce que tous les deux, c'est des baveux et visiblement, ils ont des codes entre eux, donc ils étaient très contents. Mais tu sais que pendant la période du Covid, les seuls à avoir été au contact des populations les plus fragiles, c'était les associations de quartier, les associations cultuelles et culturelles musulmanes. Et ça, personne n'en a parlé. Rachida a fait quoi ? Elle a sa croyance, elle a son choix, elle a ses goûts, elle fait ce qu'elle veut. Et elle fait un acte très fort de citoyen qui permet l'ouverture d'un bureau. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de président, il n'y a pas d'ouverture de bureau.
Alors qu'est-ce que dit la loi ? C'est important parce que Rachida nous disait tout à l'heure ignorer cette loi de neutralité du président. Ça, on est d'accord, un président ou une présidente de bureau de vote, Rachida, ne peut pas porter un signe religieux distinctif.
D'accord. Alors si quelqu'un est atteint d'un cancer, et qui apporte un voile pour ne pas qu'on voit qu'elle a plus de cheveux sur
son visage. Ouais, mais non, ça c'est pas religieux, ça, Philippe.
Non, mais c'est bon, mais pff,
c'est du moment qu'on n'a pas une tête d'arabe en dessous, hein. C'est surtout ça. Hein.
Ouais.
Ouais, je crois que c'est surtout ça en vérité. Un voile aujourd'hui est un signe religieux. Donc les femmes, les Portugaises, les Italiennes, lorsqu'elles sont en deuil et lorsqu'elles sont veuves, elles portent un voile. Qu'on légifère une bonne fois pour toutes. Et qu'on dise que les gens ils viennent comme ils veulent, mais du moins qu'ils viennent et qu'on fasse venir la démocratie. Au contraire, on stigmatise, on renferme et on dit aux gens « restez entre vous ». Et ben justement, c'est là où il y a du séparatisme, c'est là où il y a du communautarisme et c'est là où il y a des gens qui se décrochent par rapport à la société et par rapport à la République française. Moi, ça me pose un vrai problème de conscience qui se passe. Moi, je suis un laïcard à mort. Il n'y a pas plus laïcard que moi.
Comme Rachida, d'ailleurs.
Moi aussi, je suis une laïcard. Hein.
Voilà, il n'y a pas plus laïcard que moi. Mais moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans la culture judéo-musulmane et d'avoir l'homme qui m'a élevé comme son fils, le grand architecte de mon univers, qui était d'obédience chrétienne. Et donc, moi, j'ai baigné dans ces trois religions monothéistes. Et donc, peut-être que je suis un petit peu plus tolérant que ceux qui ne connaissent pas et qui voient que par des bribes de reportages et qui font peur et qui sont angoissants. Et tu finis par faire une dépressive généralisée. Et c'est ce qu'on communique à l'extérieur. Le voile, donc, c'est obligatoirement du prosélytisme. Bon, OK.
Alors, Rachida, la loi... Rappelez-vous, on se le rappelle, puisque tout à l'heure vous nous passiez sur ce petit détail qui est très important, vous ignoriez la loi. Donc vous, parce que vous portez le foulard en France aujourd'hui, c'est la loi qui dit, hein, vous ne pouvez pas être présidente d'un bureau de vote, c'est ça?
Tout à fait, donc c'est la neutralité qui prime. Maintenant, le problème, il y a foulard...
Mais vous pouvez par contre être assesseur, il n'y a rien, oui, y a, oui, qu'une loi qui indique que vous pouvez... Ne pas être assesseur parce que vous portez un foulard.
Oui, il y a des incohérences de toute façon partout. Dans les nouvelles lois françaises, même la laïcité, aujourd'hui c'est une laïcité politique, on parle d'islam politique, mais je parle aussi d'une laïcité politique qui n'a rien à voir avec cette laïcité que moi j'ai connue et j'ai vécue. C'est-à-dire, en fait, il faut se souvenir qu'à partir du mondial du foot de 98, ou Black Blanc Beurre, où on s'entendait entre juifs, chrétiens, non-croyants, croyants, et c'était bon vivant, c'était se respectait, c'était beau. Aujourd'hui, on ne retrouve plus ça. Les nouvelles générations sont complètement déconnectées de ces valeurs-là. On avait Le Pen, il râlait, mais franchement, il ne faisait pas peur. On était tous solidaires, on s'aimait, on se parlait, on discutait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Et c'est de la haine. La parole
qui prime.
Raciste. Parole raciste.
Dans la sphère médiatique et politique, ont quand même renforcé cela. Emmanuel, quand tu écoutes Rachida, ce qu'il vient de lui arriver, quand même, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça t'évoque, cher Emmanuel ?
Alors, premièrement, on est tous laïcs et moi je le suis encore plus.
Pourquoi encore plus ?
Je déconne.
Je m'affirme comme laïcard.
Oui. Philippe et
cette laïcité politique.
Et Rachida aussi.
Non, mais. Justement, je rebondis sur ce qu'a dit Rachida sur le fait qu'il y a l'islam politique. Moi, il y a effectivement une laïcité politique. C'est un combat un petit peu de... Comme beaucoup d'entre nous, en tout cas, je le revendique comme tel. Il y a un élément qu'on a oublié quand même dans ce débat. C'est que s'il n'y avait pas eu Jordan Bardella, il n'y aurait pas forcément eu toute la polémique et toute la réflexion.
C'est vrai que c'est lui qui a tweeté.
C'est venu de ça. La polémique est venue de ça.
Pas seulement, parce que j'ai aussi...
Médiatiquement, c'est venu là.
J'ai aussi... sur Le Parisien, j'ai sollicité Le Parisien pour... en fait, c'est deux événements complètement indépendants, mais qui se complètent, qui se rejoignent. Et c'est arrivé en même temps. Et ça a ouvert le débat.
Ouais, c'est un croisement, faits.
Si vous m'autorisez... cette petite digression, ce qui vous rassemble, c'est que lui-même non plus ne connaissait pas la loi, parce qu'il l'a présentée.
C'est l'ironie.
Même moi, je ne connaissais pas la loi, donc vous ne pouvez pas m'en vouloir. Non, effectivement, moi je trouve que sans rentrer dans le fond du sujet, ça mériterait toute une émission, etc. Et ça prendrait des heures et des heures. Ce qui vous arrive, et ce sur quoi nous sommes en train de discuter, est effectivement un signe d'une société française qui va mal, quand on a une démarche citoyenne, qui est la vôtre, accepter de passer toute une journée pour des démarches électorales que même le commun des Français, que n'importe quel Français ne veut plus faire.
Ah ouais.
Que n'importe quel Français ne veut plus faire, et qu'on en soit à venir vous faire un procès en républicanisme, me semble un symptôme, effectivement, de cette incapacité à bien comprendre les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est faire respecter les principes républicains. Le principe républicain le plus absolu, c'est le droit de vote. Et on en viendrait presque à penser que ceux qui vous ont cherché querelle, forcément, sont ceux qui, peut-être, ne seraient même pas allés voter, d'une certaine manière, ou ne sont pas forcément ceux qui sont allés voter, puisque, comme vous le disiez, 80% des gens sur votre bureau de vote électoral ne se sont pas déplacés.
80% d'abstention.
80% d'abstention. Ouais. Le deuxième élément, je crois que c'est important de rappeler la loi. La neutralité du service public et la neutralité du lieu où a lieu ce service public. Une des choses que l'on oublie, c'est que les élections ont lieu dans des espaces du service public, des écoles ou des mairies. Et donc c'est ça, en fait, la question. C'est est-ce que c'est la sacralité du lieu, la sacralité de du moment, et moi je pense qu'effectivement... Je fais une petite entorse au laïcisme. Il peut y avoir des adaptations. Après tout, si votre présence incite à voter ou que vous puissiez faire ce que d'autres ne voulaient pas faire, vous avez été réquisitionné. Vous ne vouliez pas le faire au début, si je comprends bien.
C'est le maire de Vitry qui l'a réquisitionné.
Disons que c'est pas que je ne voulais pas le faire. Moi, je suis toujours serviable. Donc,
mais c'est bien le maire qui vous a demandé de le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle la réquisition.
Oui, il a réquisitionné Rachida parce qu'il y avait un manque de personnel criant pour tenir les bureaux de vote.
Et
il n'y a pas qu'à Vitry, d'ailleurs. Je vous rappelle qu'à Marseille, on a ouvert des bureaux de vote à midi.
Non, mais pire, il y a des bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir parce qu'il n'y avait pas le nombre suffisant d'assesseurs, voire même personne qui voulait assumer, et j'en termine par là, la responsabilité de la présence du bureau de vote. La responsabilité d'une présence de bureau de vote, c'est un acte très citoyen. Donc le procès en citoyenneté, le procès en républicanisme qu'on vous fait, moi je ne ferai pas de commentaires par rapport au voile, mais me semble quand même assez hallucinante, assez en contradiction,
C'est une société malade, en fait.
Ce sur quoi tous les responsables politiques se sont évertués et épouvantés, si j'ose dire, le soir du premier tour, à dire « Mon Dieu, la politique est noble, il faut absolument que les jeunes retrouvent, les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, retrouvent le chemin des urnes. » On est vraiment dans une société qui a renversé ses propres valeurs.
Alors Rachida, bougez pas, vous allez pouvoir répondre dans un instant. Et surtout, moi j'aimerais vous poser la question, qu'avez-vous à répondre à ces députés du MoDem ?
Non, un député du MoDem,
ouais,
qui s'appelle François Pupponi, a déposé un amendement. C'est pas des députés, c'est un député.
Ouais. Et donc, qui représente le groupe quand même. J'ai pas entendu les gens se désolidariser.
C'était pour surfer sur l'événement.
Liberté de vote.
Oui, d'accord, mais bon.
Vous motez la phrase. D'ailleurs, je pense qu'il serait utile et important que vous puissiez dialoguer avec lui, débattre avec lui.
Christophe,
il en est parfaitement d'accord.
François Pupponi, c'est pas celui qui, en plein période de Covid, allait faire du prosélytisme, enfin de l'achat électoral ou du racolage électoral dans une synagogue, et il disait « Ah, bientôt ma chia, il va venir ». C'est bien lui qu'on parle.
Non, ça c'est l'autre député.
François Pupponi, l'ancien maire de Sarcelles.
Oui, c'est lui, c'est l'ancien maire de Sarcelles, effectivement.
Mais bon, je ne suis pas certain que l'événement en question ne fait pas référence plutôt à Meyer Habib, mais j'ai un doute.
Non, c'est Pupponi, il a raison. Et c'est vrai qu'il allait aussi dans les mosquées à la veille d'élection, enfin voilà. Alors Rachida qui s'est retrouvée au cœur de la polémique, puisqu'on le rappelle, elle a été sollicitée par le maire de Vitry pour tenir un bureau de vote, pour présider un bureau de vote, et suite à des délations, à des plaintes, à des insultes aussi que vous avez subies, islamophobes, racistes, dans votre bureau de vote, la préfète a demandé au maire de Vitry de passer assesseur. Donc rien, visiblement, n'empêche, si on en croit un petit peu tout ce qui se passe autour de cette affaire, de pouvoir être assesseur lorsqu'on porte un foulard. Si ce n'est peut-être la problématique qu'a soulevé un petit peu Emmanuel, étant donné que les bureaux de vote se tiennent dans les lieux de la République,
du service public,
les écoles, les mairies, etc., ça peut ça aussi poser question. Et d'ailleurs, ça n'a pas tardé à arriver sur les bancs de l'Assemblée, à l'initiative d'un député MoDem, François Pupponi, qui propose, lui, de faire interdire, justement, des assesseurs, femmes, donc, portant le foulard, de pouvoir tenir un bureau de vote. Qu'avez-vous à lui répondre, monsieur Pupponi ? Rachida Kabouri, pardon.
Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, moi, ma mère, elle m'a bien élevée, donc je suis polie. Et moi, la moindre des choses, c'était ce jour-là, c'était vers les coups de 16 heures. La moindre des choses, c'était de me laisser terminer la journée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu mort d'homme. J'étais là pour permettre à ces gens qui sont venus voter ce jour-là de pouvoir voter et de s'exprimer. Parce que c'était très important. Et aujourd'hui, le problème des députés, c'est qu'ils veulent faire le buzz. On est à l'ère de la communication, parce que comme ils n'ont pas de solution dans les placards pour les problèmes d'emploi, d'insertion professionnelle, de logement, des grands sujets, parce qu'on n'a pas su se réinventer. Il y a le vieux monde et le nouveau monde. Et aujourd'hui, ben, il faut bien, comme disaient les guignols, il faut bien un bouc émissaire. Donc je suis passée par là. C'est pas grave, moi je suis prête à la confrontation, au dialogue, parce que c'est mon métier.
Vous seriez prêt à débattre avec Monsieur Pupponi ?
Oui, bien sûr, à lui expliquer ce qui se passe en bas. Il faut descendre un peu de son perchoir et venir. Je doute que Monsieur Pupponi a fait le tiers de ce que je fais, c'est-à-dire accompagner les femmes victimes de violences au commissariat, aider les jeunes à monter leur structure, mettre en place un dispositif alternatif au 115 qui est débordé. C'est une honte. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas accès à leurs droits parce que la domiciliation n'existe plus. Il n'y a rien. Les services publics, les acquis pour lesquels nos grands-parents et nos parents se sont battus, il n'y a plus rien aujourd'hui. Mais les grands absents, c'est nous aussi. Il ne faut pas jeter la pierre.
On va pouvoir organiser ça, si vous voulez bien, Rachida, avec grand plaisir. Si vous voulez en tout cas débattre, échanger sur notre œil bienveillant, qui est le mien, pour essayer de mener ce débat à bien, pour que les arguments des uns et des autres puissent se faire entendre, dans le respect, bien entendu, des idées de chacun, à l'organiser ici. Moi, je vous le propose très ouvertement et publiquement, Rachida. C'est quand vous le souhaitez. Peut-être qu'on va laisser un petit peu la polémique se terminer un petit peu, se refermer. Et je crois que M. Pupponi, d'ailleurs, qui avait accepté aujourd'hui, le fera sans problème, je pense, une prochaine fois. Du moins, je l'espère. Voilà.
Si donc, vous permettez,
oui, Rachida.
Je voudrais juste ajouter. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis sur le terrain associatif, j'ai eu un retour, un soutien de beaucoup de gens. Hein. J'ai été très étonnée, et surtout les jeunes. Et beaucoup ne sont pas allés, à cause de cet événement, ne sont pas allés revoter le dimanche d'après parce qu'ils étaient écœurés. De la politique.
Ah oui, mais c'est vrai.
Voilà. C'est vrai.
Toutes ces polémiques n'incitent pas les gens à aller voter, ça c'est clair.
Il y a certains jeunes, ils m'ont dit, bon, Rachida, on est solidaires avec toi, ça sert à rien d'aller voter. Je leur ai dit, non, au contraire, il faut aller voter, ne serait-ce que, comme disait un ami, lui, il va exprès pour voter nul. Parce que les nuls, les blancs. Non, les blancs sont pas comptabilisés. Lui, non, c'est ils votent nul, c'est-à-dire il me dit, c'est des nuls, il déchire et comme ça, il montre sa présence. Voilà, je suis là le jour où les nuls seront nombreux. Je pense que ça fera réfléchir un petit peu.
On reconnaît le vote blanc, c'est encore.
Oui, ce qui est pas encore fait. Hein.
Non,
c'est pas encore fait.
On est mal barré.
Alors on va écouter Fatima qui nous a appelé tout à l'heure et qui souhaitait. Reparler avec nous en la présence de Rachida Kabouri. Fatima, vous êtes là ?
Oui, je suis là, Christophe, bonsoir, bonjour
re-bonsoir.
À vos invités.
Voilà.
Moi, je dis tout simplement que c'est un acharnement contre la communauté musulmane. Alors ce matin, j'étais en train d'écouter Ménard, le fameux Ménard. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors moi, je ne savais pas que les youyou, c'était religieux. La prochaine fois qu'il entendait Youyou dans sa mairie, il arrêterait le mariage. Ça, c'est ce matin. Ouais. Alors, moi, j'habite dans le 16e. Nous, on a nos cousins, les juifs. Ils viennent célébrer leur mariage très bien. Et ils font des Youyou je vous dis pas. Hein? Donc, moi, je pense que c'est un acharnement. Et pourquoi il y a cet acharnement contre nous ? Premièrement, on n'est pas une force électorale. Et deuxièmement, on n'a pas de représentants. Personne ne nous représente. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, on a des Ménards, des Zemmour, des je ne sais pas comment... ils écument les plateaux et de radio et de télé. Et c'est même... Alors que la communauté musulmane, une bonne majorité n'est ni croyante ni pratiquante.
Merci Fatima pour votre avis exposé ici. Est-ce que vous pensez vraiment, Rachida, sur ce que vient de dire Fatima, qu'elle a raison ?
Elle a totalement raison. Je vais vous raconter une anecdote.
Racontez-nous une anecdote, Rachida.
Moi, j'ai participé aux assises territoriales de l'islam de France. Vous en avez entendu parler.
Évidemment.
Alors, la première édition, j'y suis allée dans le 94. Et donc, j'y suis allée avec une amie orthophoniste, parce que le préfet, à l'époque, voulait inviter aussi les personnes de la société civile. Et donc, j'arrive, et là... Il y a les 46 représentants des mosquées, que des bonhommes. Il n'y a pas une seule femme. On était les deux seules femmes. Et donc, du coup, on a participé. Et c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas de représentation dans le sens où le gouvernement nous renvoie toujours à la religion. Et donc, ils sont en train d'instaurer, par exemple, le CFCM de Sarkozy, où c'est la chaise musicale entre les représentants consulaires qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ils ne nous représentent pas. Vous savez, moi, quand il y a eu le compte-rendu au Sénat, j'étais là. Et malheureusement, j'ai parlé pour la présence des femmes dans les mosquées qui sont bonnes qu'à faire le ménage et la cuisine. Il y a eu une annonce de fait sur un quota de 20% de femmes dans les instances musulmanes.
Ouais.
Du conseil, c'était juste un effet d'annonce. Il n'y a rien eu. Donc, je comprends cette dame quand elle dit on n'a pas de représentants ici en France. Et aujourd'hui, les politiques, eux, s'adressent, ils font du clientélisme, ils s'adressent qu'aux religieux, des religieux qui ne...
Mais qui empêche cette communauté d'avoir de définir par exemple des représentants, de
déjà,
pouvoir...
Déjà, il faut comprendre ce qu'est l'islam. L'islam, nous, on n'a pas de clergé ou autre, c'est la citoyenneté, c'est le bon comportement. C'est-à-dire chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est un principe...
Quel type de représentant faudrait-il alors Rachida ?
Par la suite, nous, au fil des assises, je suis venue avec plus de femmes, des femmes qui sont doctorantes, qui ont du bagage et qui sont force de proposition. Moi, je serais plus pour, par exemple, sur la question de la langue arabe. Oui. La langue arabe, moi, je me souviens, quand j'étais au CP, on avait le droit de, d'avoir des cours d'arabe.
Oui.
C'est dommage qu'il n'y a pas eu cette continuité, parce qu'aujourd'hui, le fait de ne pas... L'arabe n'est pas une langue morte, c'est une langue au même titre que l'anglais et les autres langues, même le chinois s'apprend aujourd'hui. Mmh. Donc je ne comprends pas pourquoi la langue arabe n'est pas apprise comme toutes les autres langues dans la sphère de l'école républicaine, où là, où justement... C'est plus sécurisant pour nous. Moi, j'ai des adolescents, ils ne parlent pas un mot arabe.
Ouais.
Donc, on est un peu... on se sent quand même frustré. Quand mes enfants vont dans nos pays d'origine, ils sont aussi frustrés de ne pas pouvoir parler cette langue maternelle. Ouais, ouais. Moi, je la connais parce que c'est ma mère qui nous l'a appris à la maison. Mais c'est dommage. Là encore, il y a des fantasmes là-dessus. Mmh. Apprendre l'arabe, c'est apprendre le Coran.
Alors, on va parler un petit peu de toutes ces polémiques au-delà de votre affaire, Rachida, et merci encore une fois d'être là. On va écouter Abdel auparavant, qui nous appelle au standard 01 40 33 9000, puisqu'ici, le peuple s'exprime réellement. Bonjour Abdel.
Bonjour à tous, bonjour Rachida. Rachida, je vais te poser une question, puisque tu côtoies un peu, tu as des associations, tu es très impliqué, donc tu dois sûrement rencontrer des gens un peu impliqués aussi importants, comme la préfète par exemple. Qu'est-ce que tu penses du problème, la polémique des drapeaux étrangers qui vont être peut-être être interdits? En tout cas, c'est une demande des sénateurs d'interdire le drapeau algérien lors des festivités, mariages, etc., etc. Et dans l'autre sens, on a Monsieur Extrosi qui a mis le drapeau israélien, mais carrément sur une mairie, à la place du drapeau français. Et là, personne n'a rien dit. Aucun sénateur s'est révolté. Qu'est-ce que tu penses de ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce que tu penses de cette chose assez grave qu'un maire puisse mettre un drapeau étranger sur une mairie qui représente le peuple, mais carrément l'étendard, hein, c'est-à-dire sur le mur de la mairie, ouais, même pas des gens. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Merci Abdel pour la question, Rachida, sur ce deux poids deux mesures que soulève Abdel, qui nous appelle au standard 01 40 33 9000.
Alors attention. Il faut être prudent parce que on rentre dans le jeu des politiques, c'est-à-dire de nous diviser. Moi, j'ai grandi avec les juifs, les chrétiens, les non-croyants. On était de tous bords. Vraiment, il y avait cette laïcité qui nous unissait plutôt que nous divisait. C'est-à-dire que on a vécu dans les mêmes quartiers et voilà, les choses ont changé, mais ça, c'est d'autres problèmes c'est d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Mais aujourd'hui, le problème des racistes, des xénophobes, c'est parce que le courant négatif n'a pas face à lui un courant positif, qui le repousse par ce qu'il y a de meilleur. On doit les repousser par ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui ne s'investissent pas, bon, c'est vrai qu'ils sont dans leurs difficultés d'insertion et tout ça, parce que c'est les grands abandonnés des politiques du gouvernement. Vous allez voir aujourd'hui, moi, parce que je suis aussi présidente du syndicat des marchés de France, donc de Choisy et de plusieurs villes dans le Val-de-Marne. Et donc, je peux vous dire que là, le Covid a fait beaucoup de casse. On n'en parle pas, il va y avoir une crise économique.
Oui, mais sur la question d'Abdel, pardon,
non,
parce que vous ne répondez pas, Rachida.
Je vais répondre, parce que sur les marchés, le souk, ben, y a toute la diversité.
Ouais.
Et cette diversité, elle n'est pas visible. Tant qu'on ne sera pas visible, comme disait le général Leclerc, la richesse de la France, c'est sa diversité.
C'était pas la question d'Abdel, Rachida.
Justement, moi, je suis sûre et certaine...
Ce deux poids, deux mesures.
On a toujours ce deux poids deux mesures parce qu'on laisse parler les ignares. Et parce que nous, on se mobilise pas, on ne s'implique pas dans la politique. Excusez-moi, ça n'arrivera pas, l'interdiction des drapeaux.
Non, ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas.
Il paraît que c'est interdit à Lille. Si vous me confirmez, il paraît qu'à Lille, il paraît qu'on n'a plus le droit d'arborer des drapeaux étrangers lors des mariages, dans les mairies. C'est ce que j'ai appris, moi je ne sais pas, à confirmer.
Alors, de toute façon, ces discriminations, c'est de la discrimination. Moi, je préfère voir le drapeau, tous les drapeaux, dont le drapeau israélien, tous sur une façade, comme on les voit dans les bars pendant les... pendant les mondiaux de foot ouais, et ouais. tout ça. Ouais. C'est ce vivre ensemble. On est une société. L'homme est sociable. Il n'est pas fait pour vivre individuellement. C'est dans cette diversité, cette pluralité.
Vous êtes d'accord avec Éric Dupond-Moretti, d'ailleurs, qui a répondu à la députée que je vous propose d'écouter, députée LR, qui s'appelle Annie Jeanne Bardet, qui est députée du Doubs, qui justement a posé cette problématique des drapeaux étrangers, mais aussi des danses qui posent, cela dit, traditionnelles, qui posent problème. Voici ce qu'elle a déclaré hier à l'Assemblée nationale. Écoutez.
Française ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Bien. Moi, je pense que lorsque l'on est marié dans une mairie française sous l'égide dans un bâtiment public qui est vraiment l'emblème de la République, eh bien, il faut se plier au code. Et chaque fois que nous avons, en tant que maire, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population. Ça insupporte les gens.
Qu'avez-vous à répondre, Rachida Kabouri, à cette députée LR ?
Vous vous rendez compte ? Il y a un mot fort sur les frontons des mairies, c'est « liberté ». Cette dame, elle nous dit, il nous faut nous plier. Or, les Français, moi, tels que je les connais, ils ne se plient pas. C'est leur liberté, c'est des râleurs, mais c'est de la critique constructive. Cette dame-là, ce qu'elle veut, elle veut nous faire rentrer dans des cases. Or, aujourd'hui, je suis désolée, moi, je viens, j'ai encore le souvenir de ce bon vieux temps où, dans les quartiers difficiles, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on attendait avec impatience Noël parce que c'était le temps des cadeaux, on attendait avec impatience l'Aïd parce que c'était la distribution de gâteaux, et on faisait la fête ensemble.
C'est le vivre ensemble.
C'est le vivre ensemble, ouais. On l'a plus. Cette dame-là, c'est une bourgeoise qui ne sort jamais de chez elle.
Une bourgeoise, madame la députée.
Voilà, tout simplement. Parce que c'est ça aussi. On a toute cette politique de bourgeois qui sont complètement déconnectés.
Attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, vous allez voir. Emmanuel, je te vois vouloir réagir, évidemment.
Oui, juste par rapport à cette histoire de drapeau.
Oui.
Bon, premièrement, Estrosi n'est pas le seul à brandir des drapeaux étrangers. Hein. Le cas israélien en est un, le cas arménien en est un autre.
C'est vrai.
Je crois que c'est une fausse polémique. Premièrement, parce que Estrosi est Estrosi. Estrosi, c'est pas la France, c'est pas le fait majoritaire. Et je crois que.
C'est quand même le maire d'une grande ville de France.
Et alors, les électeurs de Nice en tiendront une conséquence. De faire de la décision d'Estrosi un fait majoritaire me choque.
Ben, je vais te répondre.
Et ben, moi,
si juste... un maire de Stein, Asdin Taibi par exemple, que vous connaissez, avait fait brandir un drapeau, je sais pas, algérien, marocain ou tunisien, sur le fronton de sa mairie, vous pensez vraiment que ça serait passé inaperçu ?
Mais justement, Christophe,
bien sûr que non.
Tu es pris au piège.
Mais non, je ne suis pas pris au piège, c'est la réalité.
J'essaye d'argumenter. Tu es pris au piège d'une argumentation qui voudrait qu'un fait individuel engage la totalité des gens. Ce que tu dis est scandaleux autant qu'Estrosi.
Ouais.
Ce n'est pas parce qu'Estrosi le fait et n'est pas critiqué que d'emblée, la France devrait être mise à l'encan.
Il y en a un, ça passe sous silence, d'autres, ça fait la polémique.
Non, mais ça passe sous silence parce que les chaînes d'information ne font pas leur travail. Ça passe sous silence parce que nous ne sommes pas assez vigilants pour le dénoncer en permanence.
Ouais.
Ça fait polémique parce que le président de la République devrait le dire.
Ouais.
Ça fait polémique parce que l'ensemble... Du faisceau protecteur qui est celui d'une conscience républicaine a disparu. Mais c'est pas scandaleux parce que Estrosi le fait et d'emblée, moi je ne me reconnais pas, pourtant nous avons des proximités politiques avec lui, dans le caractère corporatiste et d'une certaine façon le caractère purement électoraliste. Quand le député Pupponi fait sa proposition. Et c'est très bien que vous acceptiez le débat avec lui. Est-ce qu'au fond, il est convaincu de son argument ou est-ce que c'est un...
On verra lors du débat.
Ou est-ce que c'est un argument électoraliste ? La question est posée. Et moi, je pense qu'on est en train de perdre l'idée de République en partant du principe que des faits désincarnés, oui, au sens littéral du terme, qui sont d'une certaine façon... pas superposable ou pas aggloméré ne représente pas l'immense majorité ouais. des faits. Le fait minoritaire, même s'il est plus visible, même s'il s'exprime davantage, ne représente pas l'état de la question. Quand Robert Ménard, sur une chaîne d'information continue, dit ce qu'il dit, ça n'engage que Robert Ménard.
Voilà. Et Gilles Platré, qui est le maire de Chalon-sur-Saône aussi, qui était chez l'invité de Morandini, qu'on écoutera dans un instant. Philippe, sur les drapeaux non européens, brandis dans les mairies, aux abords des mairies, les danses traditionnelles auxquelles a fait allusion la députée, est-ce qu'il faut l'interdire, Philippe ?
Alors, on parle de drapeaux non européens, c'est bien ça
hein ? Ouais, c'est ça, ouais. Drapeaux étrangers, on a très bien compris de quoi il s'agissait.
Non, mais attends, faut être clair. Est-ce que c'est des drapeaux étrangers, hormis le drapeau français ? Ou est-ce que c'est des drapeaux non européens ? Ou est-ce que c'est des drapeaux non caucasiens ?
Non, c'est des drapeaux étrangers. Voilà ce qui est dit. Drapeaux étrangers.
Donc, c'est-à-dire que si je suis espagnol, je ne peux pas sortir un drapeau espagnol. Tu vois, si je suis d'origine espagnole, si je suis d'origine portugaise, je ne peux pas sortir un vache fuder.
Voilà, c'est ça.
En période de foot.
Non, attends, la question est importante. C'est le Estrosi a été critiqué parce qu'il a remplacé le drapeau français par un drapeau israélien. La question, évidemment, du choix de mettre un drapeau étranger à côté du drapeau français à l'occasion d'une fête nationale, à mon avis, ne pose aucun problème.
Ouais, mais là, on parle de mariage, là, lors des mariages.
Notre interlocuteur ne parlait pas de ça. Il parlait du
fait. Oui, je sais, bien sûr. Mais là, ce dont faisait allusion la députée, c'était lors des mariages. Oui, Philippe.
Non mais tu vois bien, Christophe, qu'on s'enfonce de plus en plus.
Ah oui, ça,
et qu'on veut
d'accord.
faire des lois qui ressemblent à des lois de Vichy, à des lois d'un temps qui est horrible, et on voit que c'est le début d'une ségrégation et on va créer des ghettos.
Oui, la charia de la laïcité.
Ces gens-là sont
la charia de la laïcité, j'aime bien ça. Ouais, c'est pas mal, Rachida, bravo.
Avec le code de vestimentaire et le bâton.
Excuse-moi, parce que sinon je pars sur une autre réunion.
Oui.
Donc, ces gens-là sont racistes, sont islamophobes, c'est les mêmes qui sont aussi antisémites. Donc, à un moment donné, moi, je dis, on a les élus qu'on mérite. Ces gens-là, s'ils sont arrivés, c'est qu'il y a des gens qui ont voté. Alors, moi, je m'adresse aux 80% d'abstentionnistes, là, qui disent que la politique, c'est de la merde. Moi, je vais vous redire une chose, et je l'ai dit à son temps d'antenne. Les politiciens n'ont qu'un seul programme, uniquement pour celles et ceux qui votent. Donc, on peut refaire le match tant qu'on veut, mais tant qu'il y aura 80% d'abstention, eh ben, on aura des racistes au pouvoir et qui auront le pouvoir démocratiquement, et ils sont légitimes à l'avoir.
Totalement d'accord avec Philippe.
J'invite, sur le même ton que Marine Le Pen, les abstentionnistes à arrêter de se faire insulter une partie de nos compatriotes français et françaises. Je leur invite à rentrer en résistance et je fais le même appel que le général de Gaulle. Il est temps, maintenant, tout de suite, de libérer la France des fascistes et des abominables
Philippe,
nazis.
On n'est pas en meeting électoral, un peu, quand même.
Mais justement...
Le message est bon, mais le ton est un peu désincarné, parce que, encore une fois...
Mais je comprends, Philippe.
Demain, c'est déraisonnable qu'il va y avoir...
Parce qu'il y a l'échéance, là, des présidentielles.
C'est un peu facile, c'est un peu facile.
Des gens commencent à dire des choses immondes. Oui,
mais ça fait des années qu'ils disent
non. Plus que d'habitude, quand même.
On a ces Fox News.
Ça doit être démocratique, elle doit être dans les urnes. Donc soit vous acceptez de vous faire insulter et vous faire mépriser.
Non, mais bon, moi, je suis très mal à l'aise avec le discours politique.
C'est un discours très politicien, Philippe. Et c'est les mêmes, lorsqu'ils sont en galère, qui vont pleurer auprès des salafistes.
Garde-en pour Valérie Pécresse, Philippe. Garde-en pour Valérie Pécresse.
Philippe, ne te trompe pas de combat. L'exagération n'est pas la fille naturelle de la politique.
Alors, on va écouter Fatah qui nous appelle au 01 40 33 9000, qui vient d'écouter le discours de l'appel du général de Boyaki. Fatah, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, mon Fatah. Comment ça va, Fatah?
Ça va, alhamdoulilah.
Bon, très bien. Attention, alhamdoulilah, c'est un peu... c'est pas bon, là. Attention, restons républicains, alhamdoulilah, Inch'Allah, tout ça, oulala, attention. Hein.
Ah, écoute, je pense qu'on a le droit de s'exprimer librement.
Oui, non, mais je plaisante, bien sûr.
Allez, je sais bien, mais c'est bon de le dire, quand même.
Alors, on t'écoute, mon Fatah, vas-y, j'ai une petite minute pour toi, à peine.
Alors, moi, j'ai deux choses à dire. La première, c'est je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit son invité, Rachida, je crois.
Oui, c'est ça, c'est Rachida Kabouri.
Par rapport à la langue arabe, l'enseignement de la langue arabe, qui empêche les gens de transmettre cette langue arabe maternelle auprès de leurs enfants ? Puisqu'elle disait, à un moment, les enfants ne savent pas la langue arabe. Moi, je l'ai appris de la part de mes parents, mais qu'est-ce qui nous en empêche de la transmettre à vos enfants ? À un moment donné, il ne faut pas attendre de l'école. cette transmission-là. Les Portugais parlent très bien portugais entre eux, ils transmettent à leurs enfants, les Turcs c'est pareil. Je vois autour de moi...
Oui, bonne réflexion de Fatah là, Rachida. Bonne réflexion de Fatah qui nous dit rien ne vous empêche d'apprendre à vos enfants l'arabe.
Moi je comprends pas, pas attendre de l'école de la République la transmission linguistique maternelle.
D'accord, enfin, Fatah, juste réponse de Rachida, rapidement.
Alors Fatah, quand je parle de la langue arabe, il faut savoir que la langue qu'on parle à la maison, c'est du dialecte entre guillemets. Il faut vraiment avoir des professeurs pour connaître la langue arabe littéraire.
Littéraire.
C'est-à-dire la langue maternelle.
Précision apportée. On parle de l'arabe littéraire.
Moi, je parle de la langue arabe littéraire dans le sens où aujourd'hui on s'enflamme, il y a des fantasmes là-dessus dans le sens où qui dit apprendre l'arabe littéraire, c'est apprendre la langue du Coran.
Service, info, musique, divertissement.
France Maghreb 2.